Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara, le coq réal.
Et le ciel encore Jacques, vous avez remarqué que la pleine lune, ce sera demain, oui. La lune sera pleine, l'occasion pour vous d'évoquer un riche univers symbolique.
Et oui, demain Clara, le jour où l'on fête Sainte Aurélie, Aurélia chez Nerval, où le rêve est la vie. La lune libère un espace saturé de représentations, notamment érotiques. Sa lumière bleutée suscite le désir et les fusions amoureuses. Belle comme la pleine lune. Lune est un compliment courant en arabe et les poètes ont souvent chanté les étreintes sous la lune dans un rapport mimétique avec, je cite Baudelaire, le dos satiné des molles avalanches de celles qui, mourantes, se livrent aux longues pamoisons. Dès que la lune est apparue dans les vers du poète, ajoute Italo Calvino, elle a toujours eu le pouvoir de communiquer une impression de légèreté, de suspension, de silence et de calme enchantement. Mais il y a aussi la face cachée de la lune, celle qui abrite les manigances des sorcières et l'agitation des spectres, la fièvre des insomnies. Lunatique était le nom d'un trouble mental qu'on disait causé par une fréquentation imprudente de l'astre mort. L'infernal sabbat des sorcières avait lieu sous la pleine lune et gare à celui qui le croisait. Dans les pages idées de Libération, Mona Chollet s'entretient avec Anaïs Morand et Catherine Calvet de son dernier livre, publié à la découverte sous le titre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Elle analyse la grande chasse aux sorcières qui a fait des dizaines de milliers de victimes en Europe entre les 16e et 17e siècles comme un phénomène de haine misogyne intense. Le paradoxe, c'est que ce déchaînement de violence collective que nous considérons obscurantiste s'est produit en pleine renaissance à l'époque dite moderne et non au Moyen-Âge. Ludovic Vialet l'avait éclairé dans un ouvrage publié chez Armand Collin, « Sorcières, la grande chasse ». L'historien étudiait l'appareil juridique et pénal qui se constitue alors et s'alimente de sa jurisprudence pour construire un délit à travers notamment la mise en place de ce que Foucault appelait les technologies de l'aveu, héritières des hérésies et de leur répression. La grande chasse aux sorcières est un phénomène contemporain de la mise en place de machines administratives employées à fabriquer de l'ordre et qui, pour ce faire, ont besoin de désordre. C'est dans le contexte de la genèse de l'État moderne que s'est ainsi produite une cogestion avec l'Église sur le plan du droit et de la justice pénale, chacun apportant à l'autre son pouvoir spécifique dans l'entreprise de construction et de consolidation de la puissance souveraine de l'État. Le gouvernement des âmes à l'appui du pouvoir sur les corps. En somme, quel est le profil de ces femmes accusées d'être maléfiques, demande Mona Chollet. Des femmes fortes, insolentes, indépendantes, des veuves ou sans époux, échappant à toute autorité masculine, sont surreprésentées parmi les victimes. D'autant que les sorcières étaient aussi guérisseuses, voire avorteuses, et que le sabbat était considéré comme la fête de la stérilité. D'où les résonances contemporaines de cette histoire à l'heure où le droit des femmes sur leur corps, notamment le droit à l'avortement, est partout mis en cause. Mona Chollet rappelle l'indécent renversement des symboles tenté par Donald Trump, qui a osé parler de chasse aux sorcières pour défendre des hommes accusés de harcèlement sexuel. Du coup, les femmes lui opposent un retournement des stigmates, comme ces militantes qui, au pied de la Trump Tower, font un cérémonial néo-païen une fois par mois. Mais revenons à la lune. Dans l'imaginaire rural, danser sous la lune était considéré comme dangereux, au risque de réveiller des fantômes. C'est pourtant ce qu'ont fait des milliers de Strasbourgeois en Landgrasse 1518, il y a 5 siècles exactement. Comme l'indique John Waller dans un article du Guardian, publié par Courrier International, c'est la chaleur exceptionnelle de l'été qui répand cette épidémie galopante, l'une des plus curieuses jamais consignée par l'histoire. Dans les archives de la ville, l'historien a retrouvé un poème décrivant les faits. Beaucoup de gens, par folie, se sont mis à danser jour et nuit jusqu'à en tomber évanouis. Plusieurs en sont morts. Après des décisions contradictoires, laisser faire ou interdire les édiles donc décident de transférer les danseurs impénitents dans un sanctuaire dédié à Saint-Vite, une grotte humide dans les hauteurs autour de la ville voisine de Saverne. D'origine sicilienne, ce saint est réputé guérisseur, ce qui a eu pour effet d'éteindre l'incendie. Dans le registre des causes du mal, un champignon qui parasite le seigle ou l'orge et qui produit une substance proche du LSD mais il est peu probable que ces victimes aient pu danser pendant des jours. D'autres sources affirment que les danseurs étaient en fait des hérétiques. On revient à la sorcellerie, car la plupart des témoins attestent que ces gens ne voulaient pas danser. Hystérie collective ou réaction à des récoltes catastrophiques et à la hausse du prix des céréales, la danse frénétique était sans doute une réponse à une situation globale.